Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et rebonjour, et rebonjour à tous et à tous. Et c'était Bermuda, elle ne s'excusera pas. Et nous aussi également, car on va s'attaquer un peu aux Américains. On tape dans le lard, comme on dit. Non, je rigole, c'est une expression. En tout cas, Christine a décidé de nous parler d'actuellement de l'exode professoral au niveau de l'avenir et des libertés académiques américaines. On va voir ce qui se passe, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et sachez-le, Canadiens, Européens, vous êtes concernés. Et on ne va pas vous lâcher avec ça, car c'est l'avenir qui se prépare.
Bonjour, bon matin. En fait, aujourd'hui, on va aborder une question là, qui soulève des profondes inquiétudes aux États-Unis, surtout dans le monde académique. L'exode des professeurs américains vers le Canada, donc ce qui est peut-être bon pour nous, en fait, finalement. Mais c'est surtout en raison du climat politique aux États-Unis. Donc, c'est un phénomène qui, selon certains experts, pourrait fragiliser la liberté académique puis la recherche universitaire aux États-Unis. Et c'est un sujet, évidemment, qui touche non seulement le domaine de l'éducation, mais aussi les fondements même de la démocratie et de la liberté d'expression. Donc, comme je mentionnais, c'est une fuite qui est motivée par le contexte politique. Donc, Jason Stanley, un professeur de philosophie à l'Université Yale, qui est auteur du livre How Fascism Work, il fait partie de ces universitaires là, qui ont décidé de quitter les États-Unis pour venir s'installer au Canada, donc à Toronto pour être plus précise. Sa motivation, en fait, c'est un environnement qui est de plus en plus hostile aux États-Unis, surtout dans les universités. Puis surtout vers les chercheurs en particulier, surtout ceux qui abordent les sujets sensibles comme le fascisme, l'histoire des régimes autoritaires et des droits civiques. Stanley a annoncé son départ pour l'Université de Toronto, une décision prise après que Columbia University ait cédé aux pressions du gouvernement Trump pour éviter la perte de 400 millions de dollars de financement fédéral. Les changements imposés par Washington incluaient un renforcement de la surveillance des manifestations étudiantes et une révision de certains programmes académiques, en particulier les études du Moyen-Orient. Pour Stanley, cette soumission des universités face aux attaques du gouvernement marque un tournant dangereux. Il dit « Quand j'ai vu Columbia capituler complètement, sans réaction forte d'autres universités, j'ai compris que nous étions dans une stratégie perdante. » Selon lui, l'absence de solidarité entre les institutions face aux pressions politiques risque de fragiliser l'ensemble du système universitaire américain. Donc ça, c'est un signal d'alarme pour l'éducation supérieure vraiment fort aux États-Unis. Quand on commence à perdre des chercheurs, quand on commence à restreindre là, ce qui peut être fait du côté de la recherche et de l'éducation, c'est quelque chose qui est vraiment documenté, disons, dans le passé, dans certains autres régimes, si je peux dire ça comme ça. Et Stanley, c'est pas le seul à s'inquiéter. Il y a deux autres figures majeures du monde universitaire, les historiens Timothy Snyder et Marcy Shore, qui sont un couple qui ont également annoncé leur départ pour l'Université de Toronto. Donc, c'est Toronto qui gagne fort ici. Ils soulignent une atmosphère où les institutions ont de plus en plus tendance à privilégier la préservation de leur financement plutôt que la défense des principes académiques. Snyder et Shore sont connus pour leur recherche sur l'Europe de l'Est et les régimes autoritaires. Donc, on s'entend que c'est des deux branches là, du côté fascisme et du côté régime autoritaire. Et ils voient dans la situation actuelle une dérivée préoccupante. Shore a déclaré que l'administration Trump exerce des pressions sur l'université pour contrôler les discours académiques, une tendance qui rappelle, selon elle, des pratiques autoritaires observées dans d'autres périodes de l'histoire. Et le problème ne concerne pas seulement les chercheurs étrangers. Selon Stanley, il existe une menace directe pour tous ceux qui osent critiquer le gouvernement. On l'a vu là, la semaine passée, il y a quelques personnes en fait, qui se sont fait refuser là, l'entrée aux États-Unis parce qu'ils avaient écrit des choses sur Trump sur Internet, donc des chercheurs dans le monde et tout ça. Donc, des Français, d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi...
Après ça, ça rejoint aussi surtout qu'en Europe, j'en avais parlé un peu à l'époque, et actuellement, c'est vraiment devenu probant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des résultats. En fait, il y a des passerelles qui ont été installées dans certaines universités, Marseille. Maintenant, ça s'est propagé aussi sur Paris, Toulouse et d'autres régions françaises où ils font des parcours spécifiques pour introduire plus facilement des étudiants américains. Donc, que ce soit dans la recherche en sciences généralisées, en médecine, en physique, en astronomie. Il y a beaucoup de passerelles qui ont été ouvertes pour des étudiants, doctorants, maîtrises américains. Donc, c'est surtout qu'il y a aussi une envie d'influence de la part des Européens. Mais Trump, lui, se focalise beaucoup plus sur l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu as
vu.
Ouais,
donc voilà. Oui, ben c'est ça. Trump, il est même un peu contre tout ce qui est sciences sociales, là, ne comprenant peut-être pas que tout est dans tout, là, dans le fond, que les sciences sociales aident les sciences plus quantitatives, des choses comme ça. Mais c'est sûr que les critiques du gouvernement Trump là, sont quand même fortes. Là, si un professeur étranger ne peut pas s'exprimer librement sur la politique, combien de temps faudra-t-il avant que cela s'applique aux citoyens américains? Ça, c'est une interrogation que Stanley a par rapport à son gouvernement. Et bon, il y a des répercussions sur les universités américaines. Donc, il y a un exode, comme je mentionnais, des professeurs. Ça pose une question cruciale. Quelles seront les conséquences pour l'enseignement supérieur aux États-Unis? Parce que c'est sûr que si un certain canevas de professeurs commence à ne plus pouvoir pratiquer aux États-Unis, donc surtout ceux qui se spécialisent sur le Moyen-Orient ou encore les régimes autoritaires, sur le fascisme, l'autoritarisme, des choses comme ça, est-ce que ce sera un sujet qui ne sera plus abordé dans les universités américaines, pardon? Et il y a Keith Whittington, professeur à Yale et cofondateur de l'Académie Freedom Alliance, qui avertit que la fuite des talents pourrait affaiblir la recherche et l'innovation américaine. Il dit « Si nos meilleurs universitaires quittent le pays, cela aura des répercussions à long terme sur la position des États-Unis en matière de leadership scientifique et intellectuel. » Donc, les universités américaines se retrouvent ainsi face à un dilemme. Est-ce qu'elles doivent accepter les pressions du gouvernement pour garantir leur financement? Ou encore, est-ce qu'elles doivent défendre coûte que coûte la liberté académique au risque de perdre des ressources précieuses? Donc, d'un côté, le Canada pourrait bénéficier évidemment là, de ces talents-là si on reçoit ces professeurs émérites-là. L'Université de Toronto, qui accueille désormais Stanley, Snyder et Shore, renforce ainsi son pôle de recherche sur les menaces et la démocratie, et ainsi que les mouvements autoritaires. Et c'est une aubaine pour le pays. En fait, là, on se positionne de plus en plus comme un refuge pour les universitaires en quête de liberté d'expression, comme l'Europe aussi, là, comme l'a mentionné Ryan. Nous, on a déjà, en fait, au Canada, un passage quasiment... gratuit, je peux dire ça comme ça, du nord au sud, là, si on veut.
Après, moi, je trouve que les contrôles sont un peu plus resserrés aux États-Unis.
Oui. Bien, c'est sûr que la façon que c'est fait pour les États-Unis, les institutions académiques aux États-Unis, puisque l'argent est beaucoup mêlé à ça comparativement, c'est sûr qu'au Canada aussi, là, on s'entend qu'il y a certaines universités qui sont plus financées que d'autres, mais aux États-Unis, c'est fois 1000 à peu près. Donc, c'est sûr que quand l'argent s'en mêle, bien, si les professeurs que tu engages ne vont pas dans le même sens que toi, ça peut, à ce moment-là, diminuer ton financement, mais ça peut jouer un peu là, sur la qualité de ce que tu enseignes. Mais en fait, c'est un précédent qui est historique, mais qui est inquiétant aussi. Donc, l'exil de chercheurs en raison d'un climat politique hostile, ça rappelle des précédents qu'on a déjà vus. Donc, Stanley lui-même, là, qui est un...
Comme Constantinople, genre. Non.
en fait, moi, je faisais plus un parallèle avec les années 1930 en Allemagne, donc un petit peu plus proche. Donc, il y a eu de nombreux intellectuels là, en Allemagne en 1930 qui ont quitté le pays face à la montée du nazisme. Stanley lui-même mentionne que son père a fui Berlin en 1939. Pour lui, quitter les États-Unis aujourd'hui, c'est en quelque sorte perpétuer la tradition familiale. Donc, c'est une drôle de tradition familiale. Mais
ouais. Ouais, hein?
Il dit aussi que cette comparaison peut sembler extrême, mais que ça traduit une réelle inquiétude quant à l'avenir des libertés académiques aux États-Unis. Lorsque des spécialistes du fascisme jugent nécessaire de quitter leur pays, ça envoie un signal assez fort là, sur la démocratie qui se passe aux États-Unis. On a vu aussi, là, évidemment, là, on a parlé la semaine dernière là, d'une femme qui a été prise 3 semaines là, dans les mains de ICE, là, si je peux dire ça comme ça. Là. Donc, on voit aussi des montées de ça, là, de personnes qui se font arrêter sur la rue, de gens qui se font arrêter à la border, là, à la limite là, du pays, avant d'entrer dans le pays. Donc, on commence à voir là, des montées qui sont un petit peu inquiétantes là, du côté des États-Unis. Du côté de l'exode des professeurs de renom, ça illustre une tendance qui est préoccupante. Il y a une polarisation croissante de l'éducation et les pressions exercées sur les institutions académiques. Donc, certains voient leur départ là, comme un acte de résistance, d'autres ils perçoivent comme une perte pour l'enseignement supérieur américain. C'est sûr que moi, je pense que c'est les deux un peu. Là. C'est un acte de résistance et c'est aussi une perte pour l'enseignement supérieur. Et le départ de chercheurs comme Jason Stanley, Timothy Snyder, Marcy Shore, ça doit nous interpeller. C'est quoi les conséquences d'une telle fuite de talent? L'enseignement supérieur américain, est-ce que c'est en train de prendre son... est-ce que l'enseignement supérieur américain est-il en train de perdre son indépendance? Puis quelles leçons pouvons-nous tirer pour protéger la liberté académique ici et ailleurs? Vous, ici, à l'Université de Sherbrooke, est-ce que vous pensez, en fait, est-ce que vous croyez, est-ce que vous avez remarqué que vous avez la liberté, en fait, d'avoir peu importe quelle opinion, puis ça dérange, bien pas que ça dérange pas, mais ça, vous avez quand même le droit d'avoir n'importe quelle opinion sans vous faire taper dessus par l'université comme telle, ou non?
Sans commentaire.
Oui. Quand même, là, faut pas exagérer quand même. On a pas mal le droit de dire ce qu'on veut, là.
Je pense qu'on a quand même une liberté qui est plus grande que celle aux États-Unis, évidemment, mais c'est sans oublier, par contre, que cette semaine, on a les gens qui ont participé au campement de la Palestine cet été, qui ont des rencontres avec, avec l'université là, pour, par rapport aux sanctions qu'ils vont avoir sur leur dossier académique. Donc, c'est sûr qu'on a une liberté, mais quand même dans un certain...
Je voulais parler pas, je voulais parler de ça en parallèle. Donc, ça, je t'ai dit que...
Il y a une liberté d'expression. Ils ont le droit de s'exprimer et ils se font taper ses doigts.
Bah ouais, mais ça, c'est pas une liberté d'expression, du coup.
Mais ils vont pas en prison, quand même. Là.
Non, c'est ça. C'est pas si pire que ça. Puis je pense pas que même les étudiants là, du campement pour la Palestine désirent déménager dans un autre pays pour avoir plus le droit de parler à quelque part. Là. Donc, c'est pas ça que je dis. Quand même, on a quand même un fort droit à s'exprimer à l'université. Par contre, c'est sûr que il y a quand même un cadre, si je peux dire ça comme ça, qui nous tient et que
Définitivement.
qui doit être maintenu dans un certain sens. Donc, une petite pensée là, en parallèle, là, c'est ça, aux étudiants du campement pour la Palestine qui, cette semaine, vont parler avec la direction et qui vont connaître leurs sanctions académiques là, par rapport à ce campement qu'il a eu cette semaine. C'est ça. En fait, on va commencer à accueillir de plus en plus d'étudiants américains. De professeurs américains, pardon. Peut-être que dans les corridors de notre université, on va avoir des professeurs sur le fascisme qui vont bientôt nous joindre ou encore des professeurs qui n'ont pas le libre arbitre aux États-Unis. Là.
Donc, en tout cas, on aura un nouvel horizon éducatif qui s'offre à nous. On espère pour toutes les institutions, que ce soit... L'être humaine ou alors même science ou génie. En tout cas, on se laisse avec un petit son magenta et on se retrouve après le spot pub car les gars, faut bien payer le loyer. Mais juste après, on va s'attaquer quand même à une vidéo qui a circulé pas mal de temps sur Internet. La vidéo de DHS avec Ramézi Ortix, jeune étudiante qui a été victime d'un abus. C'est ce que nous allons voir et j'espère que vous êtes prêts car c'est à se tordre le cou.